La conséquence de leur mésentente, c'est qu'ils sont en train d'exaspérer en fait leur soutien, c'est-à-dire la diplomatie occidentale, mais aussi les pays arabes du Golfe, qui les soutiennent et qui les financent, parce qu'ils sont incapables de se mettre d'accord. Donc ils se décrédibilisent complètement. Il y a deux causes hein, à cette division de l'opposition syrienne. Il y a 6 mois, le Conseil national syrien était jugé trop sectaire et donc Hillary Clinton avait demandé sa dissolution, son remaniement. On avait recréé ce qu'on appelle la coalition nationale syrienne en novembre 2012 à Doha. Seulement, bon, c'était en fait un CNSB, toujours autant dominé par les frères musulmans qui noyautent le système. Le problème, c'est que ces frères musulmans qui noyautent le système, ils sont très radicaux contre le régime d'Assad, ils refusent toute compromission. Ça s'explique par la répression qu'ils ont subie, mais aussi par le fait que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont à l'étranger. Et donc, ils peuvent attendre. Surtout qu'en plus, leurs familles ne subissent pas la crise humanitaire que connaissent les autres Syriens, puisqu'ils sont à l'abri aux États-Unis, en Suède ou ailleurs. En revanche, des gens comme Moazel Ratib, un ancien président de cette coalition nationale syrienne, démissionnaire, lui, il vient de Syrie. Il sait les souffrances du peuple syrien. Et il est plus enclin, évidemment, à un compromis que les exilés. Il faut dire aussi qu'il n'a que 50 ans, donc il sent qu'il a quand même un avenir politique devant lui en Syrie. Il n'a pas envie de passer 20 ans en exil. Les autres dirigeants, ils ont 60, 70 ans. Ils ont lutté pendant 30 ou 40 ans contre le régime, c'est pas pour céder aujourd'hui. Donc ils sont vraiment très, très radicaux. La coalition nationale syrienne est financée par des bailleurs de fonds qui sont en rivalité, Qatar, Arabie Saoudite, et qui clairement s'affrontent au sein de cette coalition nationale syrienne avec des Occidentaux qui sont de plus en plus en retrait parce qu'ils n'arrivent plus à dominer la situation.
Ces désaccords n'encouragent pas évidemment non plus les pays occidentaux à lever l'embargo sur la livraison d'armes aux opposants syriens, j'imagine.
La Grande-Bretagne poussait ces derniers temps à la levée de l'embargo pour les rebelles syriens. Et vous avez des pays comme la Suède et surtout l'Autriche qui sont farouchement opposés. La question, c'est livrer quel type d'armes et à qui ? Parce que sur le terrain, l'opposition militaire, elle aussi, est extrêmement divisée. Alors, il faut savoir qu'entre l'opposition politique qui se réunit actuellement à Istanbul et les combattants sur le terrain, il n'y a pratiquement pas de lien. Lorsque Laurent Fabius dit « nous allons livrer des armes à la branche militaire de la coalition nationale syrienne », sans doute veut-il parler de l'armée syrienne libre, mais cette armée syrienne libre n'existe pas. Il y a un état-major en Turquie qui est la vitrine de cette armée syrienne libre, mais sur le terrain, les 200 000 personnes qui se battent, qui ont les armes à la main, ils ne répondent absolument pas à cet état-major. Ils luttent pour leur village, leur quartier. Vous avez des groupes djihadistes qui, là, vraiment, sont carrément en opposition par rapport à cette coalition nationale et l'état-major de l'armée syrienne libre, qui sont mieux organisés, mieux structurés, très bien financés par des fondations privées du Golfe, et qui, eux, poursuivent un objectif d'émirat islamique en Syrie. Évidemment, il n'est pas question de leur donner des armes, officiellement. Pourtant, ce sont les plus efficaces. Et c'est là tout le dilemme, c'est-à-dire livrer des armes à des gens qui n'existent pas, ou livrer des armes à des gens qui sont efficaces, mais qui sont des djihadistes qu'on combat par ailleurs dans d'autres parties du monde.
On voit qu'il y a aussi une véritable contagion de la région, notamment au Liban, où les violences s'accroissent. Est-ce que vous pensez que s'ils ne trouvent pas rapidement une solution, on pourrait se retrouver avec une guerre civile au Liban ou proche d'une guerre civile? En tout cas, la situation peut-elle empirer?
Alors la situation au Liban peut effectivement empirer parce que la guerre civile n'a jamais été vraiment réglée au Liban. Les fractures communautaires sont toujours là. Aujourd'hui, le Hezbollah libanais donc s'engage officiellement et fermement aux côtés de Bachar el-Assad pour reprendre la ville de Qosair, à la frontière libanaise. Il faut savoir que dans cette ville de Qosair, vous avez des centaines de combattants djihadistes libanais, des sunnites, et qui ont été envoyés par des chers comme le cher Assir de Saïda pour se battre contre le régime syrien. Et donc ce qui se passe en Syrie, c'est aussi une guerre entre Libanais. Alors évidemment, chaque fois que vous avez des morts à Qosair, côté rebelle, eh bien ça enclenche un phénomène de vengeance au Liban, avec les combats à Tripoli entre le quartier sunnite et le quartier alaouite, où il y a déjà eu plus de 30 morts, Et puis dimanche matin, ces roquettes qui ont été lancées sur la banlieue sud de Beyrouth, banlieue chiite, et qui rappellent évidemment les ombres les plus sombres de la guerre civile, puisque là, on a lancé des roquettes au hasard pour frapper une communauté, c'est-à-dire la communauté chiite. Si le régime de Bachar el-Assad reste en place, je suis plutôt optimiste pour l'avenir du Liban. Parce que ça veut dire que le Hezbollah restera puissant, et par conséquent, les acteurs saoudiens, les acteurs sunnites n'oseront pas attaquer le Hezbollah, et on évitera ainsi la guerre civile. En revanche, si le régime d'Assad s'affaiblit et qu'il tombe, là, il est clair que l'objectif suivant, ce sera le Hezbollah, et par conséquent, on aura une reprise de la guerre civile au Liban.